fille des voix du monde, celle qui vous parle jour après jour en temps universel, cette voix, c'est celle de Louis Bel-Enfant, qui vient de vous présenter ce journal. Autre voix du monde, celle d'Edmond Salaka. Edmond, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Je vous souhaite une bonne émission.
Merci. À la une de ces 20 minutes d'infos consacrées à l'actualité d'Haïti et des Amériques, tout d'abord un reportage d'Amélie Baron à Port-au-Prince. Il sera question de la reconstruction sous le régime de copropriété en Haïti. La revue de la presse, ce sera avec Romain Lemaresquier, une large place consacrée au Népal, deux jours après le séisme. Mais aussi on parlera du Guatemala avec des manifestations ce week-end pour réclamer la démission du président. On ira au Chili, notre correspondante Claire Martin nous dira que les réseaux sociaux sont très actifs depuis le réveil du volcan Calbuco au sud de Santiago, c'était mercredi dernier. Comme tous les jours, le journal d'Outre-mer première d'ici un quart d'heure avec Edwige Saint-Thomas à la une mine de 150 tonnes d'or découverte en Guyane et qui fait naître beaucoup d'espoir. Et on commence avec la presse des Amériques. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Edmond, bonjour à tous.
À la une donc le tremblement de terre au Népal que l'on retrouve à la une du continent, de la presse plutôt du continent américain. C'est vrai que pour certains pays, ce type de catastrophe ravive bien des souvenirs.
Et oui, que ce soit au Mexique, au Pérou, au Chili ou encore aux États-Unis, toute la presse scrute l'évolution de la situation au Népal. Le quotidien mexicain La Prensa, par exemple, consacre toute sa une ce matin à cette catastrophe avec des photos du désastre, d'autres de survivants, et un seul mot qui barre en la une, catastrophique. Le quotidien met quelques chiffres à cette tragédie, plus de 3500 morts, plus de 6500 blessés et 29 ressortissants mexicains localisés au Népal. Le Mexique est un pays malheureusement habitué à ce type de catastrophe naturelle, d'où l'émotion suscitée par ce tremblement de terre. Excelsior revient sur les premières heures qui ont suivi les premières secousses et les craintes des répliques. Les habitants de la capitale népalaise qui préfèrent dormir dehors plutôt que de se risquer à rentrer chez eux lorsqu'ils ont encore un toit, une phase pendant laquelle il est compliqué d'organiser les secours selon le quotidien.
Alors, outre l'émotion et le suivi, et il est question aussi de mobilisation, Romain.
Oui, justement, le New York Times se pose la question de la difficulté d'acheminer de l'aide au Népal avec ce titre, « Le tremblement de terre au Népal constitue un défi pour les agences d'aide humanitaire ». Dans cet article, le quotidien, qui a pu joindre des représentants de différentes ONG sur place, explique que même les ONG très présentes dans ce pays considéré comme l'un des plus pauvres au monde, souffre des conséquences des secousses, maisons et matériel détruits, les ONG sont comme les Népalais, et selon le quotidien qui cite l'ONU, ce sont 6 millions de personnes qui seraient dans le besoin, dont 1 million d'enfants selon l'UNICEF. Mais l'état du réseau routier et également du réseau électrique risque d'augmenter la complexité des opérations dans un pays déjà géographiquement compliqué à maîtriser, estime le quotidien.
Alors concrètement, les États-Unis sont parmi les premiers à envoyer de l'aide au Népal.
Oui, le Washington Post nous donne quelques chiffres. Samedi, la Maison-Blanche avait annoncé le déblocage $1 million. Et hier, selon le quotidien, c'est un avion militaire américain qui est parti pour Katmandou avec 70 secouristes à son bord, 6 chiens spécialement entraînés pour retrouver des victimes et 45 tonnes de matériel. Selon le Washington Post, la Chine, également touchée par le séisme, a envoyé de l'aide matérielle et humaine sur place et elle a également débloqué $3 million. Israël, Sri Lanka, Malaisie et Pakistan devraient également envoyer de l'aide dans les prochaines heures, croit savoir le quotidien, ce qui viendra s'ajouter à l'effort fourni par déjà de nombreux pays.
Direction le Guatemala maintenant, Romain Lemaresquier, où la tension est à son comble après les manifestations de samedi dernier. La foule réclamait la démission du président Otto Pérez.
Oui, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale réclamant la démission du président et de la vice-présidente Roxana Valdetti suite à des révélations d'un scandale de corruption qui les concerne directement. Il s'agirait, selon le quotidien La Hora, de millions de dollars de pots de vin encaissé selon toute vraisemblance par le secrétaire de la vice-présidente guatémaltèque, un secrétaire qui est désormais en fuite puisqu'il a profité d'un voyage officiel en Corée du Sud la semaine dernière pour disparaître, détaille La Hora. Selon Siglo 21, des rumeurs de nouvelles manifestations pour aujourd'hui circulent et feraient même craindre un coup d'État à certains. Des écoles ont décidé de rester fermées ce lundi malgré l'appel du ministère de l'Éducation pour que les classes se tiennent normalement. La tension est donc palpable malgré les appels au calme et au respect des institutions d'action judiciaire lancée par le président Otto Pérez.
Enfin, au Venezuela, le maire de Caracas, Antonio Ledesma, détenu depuis le mois de février, a dû être opéré d'urgence.
Oui, c'est l'un des deux opposants les plus connus, détenu dans la prison militaire de Ramo Verde avec le fameux Leopoldo López. Eh bien, il a été opéré hier d'une hernie discale, selon le quotidien El Nacional. Celui qui est accusé de conspiration par le gouvernement et qui est soumis à un régime de détention stricte va peut-être pouvoir rentrer chez lui pour respecter sa période de convalescence sous le régime de l'assignation à résidence. C'est en tout cas l'avis du médecin qui l'a opéré et qui s'exprime dans les pages du quotidien. Mais selon El Nacional, la justice vénézuélienne n'aurait toujours pas tranché et la présence de nombreux policiers devant l'hôpital où l'ancien maire de Caracas a été opéré, eh bien cette présence ne laisse présager rien de bon, croit savoir ce matin le quotidien.
Merci, c'était la revue de la presse des Amériques, Romain Lemaresquier.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous prenons justement la direction de Port-au-Prince où l'État vient d'achever la réhabilitation d'un quartier de la ville dévasté par le séisme de 2010. Les autorités ont pu convaincre les habitants de construire non pas chacun leur maison mais plutôt des petits immeubles sous le régime de la copropriété. Explication de ce choix, eh bien l'absence à jour de cadastre. Explications et reportages d'Amélie Baron.
Catherine Aluna-Losti a habité plus de 30 ans une maison dans le quartier de Morne-Lazare, mais désormais, c'est dans un appartement qu'elle va vivre.
J'avais une petite maison, mais depuis le séisme, je dormais mal. On souffrait, moi et les enfants. Quand il pleuvait, l'eau coulait dans nos dos. On a volé mon lit et donc on dormait par terre. Dieu nous a fait une grâce en parlant au président pour me permettre de faire cet espace que j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir. Regardez, j'ai deux belles chambres à coucher, une cuisine, des toilettes hygiéniques et un beau balcon pour respirer. Quand j'étais quasiment à la rue, je dormais à même le sol. Je n'avais pas l'espoir de voir le Morne-Lazare se rétablir et devenir beau comme ça. Le quartier s'est vraiment beaucoup embelli. Il a un nouveau visage. Je suis très fière.
Quartier embelli en pile. Et l'autre visage, je suis très fière.
À quelques mètres dans l'immeuble voisin, Fanfan Fesnel est aussi comblé. Avec la création d'une petite place, il va pouvoir laisser sans crainte ses enfants jouer dehors. Et il rêve grand pour le pays. Il veut voir son quartier servir de modèle pour les autres zones défavorisées.
Nous avons dit que nous voulions vivre.
On sent qu'on veut vivre comme des hommes et qu'on veut aller plus loin. Je souhaiterais qu'on ne soit pas les seuls à en profiter, que le gouvernement se penche sur le cas des gens qui vivent dans de mauvaises conditions. J'aimerais que tous aient la chance de vivre comme je vis aujourd'hui. Ce serait une fierté de voir mon pays changer, voir mon pays devenir un autre pays.
Il aura fallu 2 ans à l'État, avec l'aide financière de la Croix-Rouge américaine, pour construire les 25 logements et réaménager le quartier. Présent à l'inauguration, Michel Martelly a reconnu que le principe de copropriété est encore loin d'être une évidence en Haïti.
Ce n'est pas facile pour la population de faire confiance à l'État. Sans la confiance, ces constructions n'existeraient pas. Quand on a commencé à parler du projet, c'était difficile, car personne ne comprenait rien au principe de copropriété, de mettre ces terres en commun pour en faire un espace plus beau. Vous aviez de petites terres sans pouvoir en faire quoi que ce soit. Maintenant, ensemble, vous vivez tous bien, dans de bonnes conditions. C'est quelque chose qu'on doit repenser dans le pays. Tout le monde veut sortir des abris en tôle, envahis par la boue, et aujourd'hui, vous avez montré que c'est possible. Ce modèle ici, je suis sûr que si on en fait un deuxième, il sera encore mieux, parce qu'on ne fait que commencer.
Le président a entamé sa dernière année de mandat et à l'heure où les élections approchent, cette inauguration de logements est évidemment une occasion pour Michel Martelly de défendre son bilan face à ses détracteurs.
Toutes les fois où les manifestations sont passées là, en demandant le départ du président, on attendait l'opposition dire que le pouvoir ne faisait rien. Aujourd'hui, je peux dire que pendant qu'il parlait, voilà ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on montre ce qu'on sait faire et pour les élections qui arrivent, écoutez-moi bien, je vais vous accompagner pour vous dire pour qui voter. Je vais faire campagne avec eux, car il faut que ce mouvement continue.
Qu'il s'agisse d'inauguration de logements ou de places publiques, Michel Martelly est présent et veut promouvoir son parti et ses candidats. Dans son nouvel appartement, Fanfan Fesnel remercie l'État qui a reconstruit son quartier, mais il est loin d'être passionné par les élections. La politique, comme il dit, ce n'est pas pour lui. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Direction le Chili maintenant, le Chili où les réseaux sociaux fonctionnent à plein depuis mercredi, depuis le réveil la semaine dernière après 43 ans de sommeil du volcan Calbuco situé à 1000 km au sud de Santiago. Claire Martin, vous êtes en ligne de Santiago. Alors Claire, les images de l'immense champignon à la base rouge vif traversé par des éclairs, ces images ont fait le tour du monde et ceci grâce d'abord aux habitants de la région.
Oui, avant qu'on arrive sur place, les photographes d'agence, ce sont les gens de la région qui ont pris les premières vidéos et photos de la première éruption qui a eu lieu mercredi à 18h locale. Le Chili est le pays le plus connecté d'Amérique du Sud, donc la plupart des Chiliens ont un téléphone avec une caméra connectée à Internet grâce au 3G. Du coup, très rapidement, ces images, ces vidéos ont circulé sur les réseaux, repris par les chaînes de télévision. Et par exemple, cette vidéo qu'on va écouter a beaucoup circulé.
Oigan, aquí está el volcán Calbuco está haciendo erupción.
On y voit un petit garçon d'une dizaine d'années qui montre la colonne de fumée depuis la fenêtre de sa maison. Il est très impressionné et en fait, il finit en appelant au secours.
Alors Claire, les réseaux sociaux ont permis dans ces circonstances difficiles aux gens de communiquer entre eux.
Oui, très rapidement, le réseau téléphonique a été complètement saturé. Du coup, les gens se sont rabattus sur WhatsApp, par exemple, pour prendre des nouvelles de leurs proches. C'est aussi grâce aux réseaux sociaux et surtout à Twitter que les médias ont su ce qui se passait. Il y a d'ailleurs une autre vidéo qui tourne encore beaucoup maintenant, qui a été diffusée plus récemment. C'est celle d'un randonneur, Walter Witt, qui a filmé complètement par hasard le moment exact du réveil du volcan alors qu'il venait de planter sa tente au pied de ce volcan.
Réserve nationale d'Inkiwe, secteur de la cascade.
Il filme un paysage magnifique où deux cascades jaillissent d'une falaise. On l'entend se féliciter d'être monté si haut et d'un seul coup, la fumée sort. Il est paralysé, puis la caméra part vers le sol. Donc, ensuite, il a raconté aux médias chiliens que pour monter, il lui avait fallu 3 heures, mais que la descente ne lui avait pris qu'une heure. La peur au ventre, il a couru façon Forrest, dit-il, en référence au film américain.
Alors Claire Martin, dites-nous, quelle est aujourd'hui la situation 6 jours après l'éruption de ce volcan? Où est-ce qu'on en est exactement à l'heure où nous parlons?
Alors, l'alerte rouge persiste. Plus de 6500 personnes ont été évacuées. Le problème maintenant, autour du volcan, ce sont les cendres qui font effondrer les toits. Elles atteignent plus d'un mètre et tuent les animaux aussi qui ne peuvent plus pâturer ou boire et qui s'intoxiquent. Cette zone rurale concentrerait 30% de l'élevage de tout le pays. Il y a aussi de la salmoniculture. Et jeudi, la situation pourrait empirer puisque la pluie est attendue. Une pluie qui fera sûrement déborder les cours d'eau et pourrait causer encore plus de dommages. Et en plus, une pluie acide avec tous les problèmes sanitaires que ça veut dire.
C'était Claire Martin, la correspondante de RFI au Chili. Et c'est l'heure de retrouver nos collègues d'Outre-mer Première, le journal qui est présenté aujourd'hui par Edwige Saint-Thomas. Bonjour Edwige.
Bonjour, bonjour à tous.
À la une de votre journal, tout d'abord cette mine de 150 tonnes d'or, donc découverte en Guyane et qui évidemment fait naître beaucoup d'espoir.
Oui, un gisement situé à 130 km de Saint-Laurent-du-Maroni dans l'ouest de la Guyane. Columbus Gold, la société Columbus Gold y mène depuis 2011 un projet d'exploration prometteur. 182 forages ont été réalisés, des échantillons analysés au Canada pour aboutir donc à ces résultats. Car il s'agit pour le moment en tout cas de ressources estimées. Il faudra 2 ans d'études supplémentaires pour confirmer ce potentiel minier et décider d'une exploitation industrielle pour 2020. Robert Giustra, le PDG de Columbus Gold, au micro de Guyane Première.
La prochaine étape est de compléter l'étude préliminaire économique qu'on va annoncer en environ 2 ou 3 mois. En 2017, on complétera une étude de faisabilité finale pour savoir et comprendre exactement le potentiel de Montagne d'Or. C'est programmé pour mars 2017. On saura tous les détails économiques à ce moment et ce sera très clair si c'est un gisement économique.
Et selon la société, l'investissement dépasse les 250 millions d'euros. La mine pourrait générer jusqu'à 1000 emplois. 150 tonnes d'or, c'est 100 fois plus que la production légale l'an dernier en Guyane. On reste en Guyane avec cette grande effervescence ce week-end au village amérindien de Camouillé, à une 30aine de kilomètres de Cayenne, avec l'inauguration du bâtiment des savoirs traditionnels amérindiens par la mairie de Macouria. Une belle bâtisse en bois pour permettre au Palicourt, une tribu amérindienne, d'exposer des produits artisanaux, un lieu de réconciliation réconciliation pour le maire de Macouria, Gilles Adelson. Il est au micro Guyane Première d'Ati Jaïr.
Au-delà du fait, effectivement, que ça soit un bâtiment public, un bâtiment pour les Amérindiens, c'est pour moi, c'est un moment de réconciliation entre tous les peuples amérindiens, et c'est le moment aussi de montrer que nous, la municipalité, pour nous, toutes les composantes de Macouria font partie du peuple macouria. Nous avons mis en place le comité, donc, des villages amérindiens, le comité consultatif, justement, pour pouvoir déjà réunir ces trois villages pour qu'il y ait une seule voix amérindienne au sein du peuple de Macouria.
Enfin, en Guadeloupe, une autre inauguration est très attendue, celle du Memorial Act, et donc, c'est pour bientôt, une inauguration prévue le 10 mai prochain en présence du président de la République, François Hollande, et de nombreux chefs d'État étrangers. Le gros œuvre de ce centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage doit être réceptionné aujourd'hui par le Conseil régional après 7 ans de travaux, initiés par le président de la structure Victorin Lurel et la région Guadeloupe sur proposition du Comité international des peuples noirs. Le Memorial Act a pour ambition de créer un lieu dédié à la mémoire collective de l'esclavage, ouvert sur le monde contemporain. À quelques jours de l'inauguration, Victorin Lurel a visité le chantier. Il avoue être un peu stressé.
Je suis un petit peu crispé, mais je pense que tout sera à peu près pour le 10 mai. Parce que bon, il faut faire mon accueil, il faut faire mon visage. Vous recevez un président de la République française, 3 présidents de République du continent africain, le chef d'État de la République d'Haïti, 10, voire 20 chefs de gouvernement de la Caraïbe, des chefs de délégation de Cuba, de Saint-Domingue et d'ailleurs. Et puis, on ne peut pas inviter tout le monde. Il y a d'autres pays africains qui voulaient venir. Par exemple, la République démocratique du Congo voulait venir. Son ambassadeur sera là, le grand écrivain Henri Lopez sera là. Donc oui, on se prépare un petit peu fébrilement. Je pense qu'on sera prêt et que la Guadeloupe sera à l'honneur et à la fête.
Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée.
Merci, excellente journée à vous Edwige Saint-Thomas. Merci à vous tous de nous écouter dans 3 minutes environ. Louis Bellenfant pour un nouveau point sur l'actualité. Mais avant cela, place à la musique avec aujourd'hui un album baptisé Havana Paris-Dakar. Et c'est la rencontre entre le Sénégalais Alou Nouad et le pianiste cubain Harold Lopez Noussa. Ils sortent d'un disque où se côtoient la rumba, la salsa, les rythmes africains. On va découvrir un extrait de cet album, ça s'appelle Aminata. Musical entre le Sénégal et Cuba, c'était Alou Nouad et le pianiste cubain Harold Lopez Noussa. Merci de nous avoir suivis. Fin de ces 20 minutes d'info. Merci Adrien Rocchicelli et Victor Hull à la réalisation et à la technique. Aujourd'hui, bonne journée à toutes et à tous.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens avec Catherine Roland, Laurent Berthaud et Frédéric Lebel.
Aujourd'hui,
le monde agricole en ébullition après la fin des quotas laitiers européens, c'est le sucre qui est touché.
Demain,
le Luxembourg veut en finir avec le secret bancaire, il va donc devoir diversifier son économie.
Accent d'Europe, du lundi au vendredi, à partir de 17h40 TU.
RFI. Jean-François Cadet.
Précurseur du selfie vidéo, voyageur solitaire à la rencontre des autochtones du monde entier, Antoine de Maximy ne viendra pas dormir chez nous, mais il viendra raconter les coulisses de ses films et de ses voyages, de Berlin à San Francisco, de Birmanie en Uruguay, de Namibie en Irlande.
Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet.
Aujourd'hui, à partir de 23h10 TU.
RFI.